Bonsoir à tous. Je vais m'acquitter d'une tâche, celle de vous saluer de la part de Louis et Marie-Thérèse Pelzer. Ils m'ont dit « Salut un tel, salut un tel, salut un tel » et au risque d'oublier, je préfère vous saluer tous de leur part. Et ils ne sont pas là à regret, mais ils sont de tout cœur avec nous. On était cet après-midi avec le groupe Découverte pour faire la visite du musée du désert. Et dans une des pièces de ce musée, il y avait des chairs qu'utilisaient les pasteurs pendant l'église du désert. Et notamment, il y en avait une qui était formée d'un tonneau de grains avec un petit pupitre escamotable, là, avec une petite tonnelle au-dessus qu'on pouvait faire. Et ils laissaient parfois du grain dans le fond, comme ça, ils mettaient ça sur leur charrette et ils allaient prêcher dans les déserts donc des Cévennes. Et ce soir, on a un pupitre comme cela, tupperware, et en cas de souci, on ne sera pas inquiété pour notre foi. Le sujet de ce soir, donc la prière délaissée. Je ne sais pas comment ont été choisis les sujets, mais un jour on m'a téléphoné, on m'a dit « Voilà Vincent, tu vas faire le sujet, la prière délaissée. » Là, vous pouvez lire « La prière délaissée » par Vincent Bourrel. Et je pense qu'ils m'ont choisi justement parce que j'étais le plus à même de vous parler de la prière délaissée. Et pour... En tout cas, pour moi, cette convention a déjà porté du fruit, parce que dès l'instant où j'ai vu le titre ou le sujet que je devais préparer, eh bien, j'ai commencé davantage à m'appliquer, à prier pour cela. Et Dieu m'a permis de faire quelques progrès dans la foi et dans la prière cette année grâce à cette convention. Et d'ores et déjà, je lui rends grâce. Maintenant, je ne peux pas dire que... Je connais le sujet encore, mais quand on veut faire la visite d'un pays, la meilleure des choses, c'est de faire la visite avec quelqu'un du pays. Vous pouvez visiter le pays avec quelqu'un qui a pris plein de renseignements sur le pays et vous en parler d'une manière tout à fait théorique. Mais quand vous visitez le pays avec quelqu'un du pays, eh bien, rien que le fait d'être avec cette personne, vous avez déjà l'impression de découvrir le pays. Et je ne prétends pas vous faire découvrir le pays comme y est de la prière, comme étant un résident, mais plutôt comme touriste. Mais j'espère que Dieu, lui qui nous a donné son esprit et qui peut parler bien au-delà de tout ce que je pourrais dire, eh bien, vous fasse progresser, vous aussi, dans la prière. Et je sais que beaucoup d'entre vous auraient bien des raisons de donner ce message, plus que moi. Le sujet, la prière délaissée, c'est un constat, tout d'abord, que la prière a été délaissée. Comparons ce que nous prions, les uns les autres, avec ce que nos prédécesseurs priaient. Je ne pense pas que la valeur de la prière puisse se mesurer avec une horloge. Mais simplement pour marquer profondément nos esprits, j'aimerais donner quelques exemples de serviteurs de Dieu qui passaient du temps dans la prière. Et tout cela pour nous montrer la nécessité d'être seul et longtemps avec Dieu dans notre vie de prière. Les hommes qui ont le mieux montré Christ dans leur vie, dans leur ministère, ont été tous des hommes de prière. Ils passaient beaucoup de temps avec Dieu dans la prière. John Wesley passait 2 heures journellement en prière. Il commençait sa journée à 4 heures du matin. Quelqu'un qui le connaissait bien a écrit de lui, « Il pensait que la prière était plus son travail que n'importe quelle autre chose. » Il dit « Je l'ai vu sortir de son bureau avec une sérénité telle que son visage semblait briller. » Luther, de même, s'exclamait « J'ai tellement de travail à accomplir que je ne peux y arriver sans passer 3 heures chaque jour dans l'intercession. » David Brenner, qui était un serviteur de Dieu qui est mort avant 30 ans et qui a apporté l'évangile aux Indiens Peaux-Rouges, passait régulièrement des journées entières dans la prière, des nuits entières dans la prière. Nous savons cela par le journal qu'il tenait. L'un des plus grands prédicateurs de son époque faisait allusion à ce journal et disait « Ce fut Brenner qui m'enseigna à prier et à jeûner. J'appris peu à peu que l'on obtient davantage par le contact quotidien avec Dieu que par les prédications. » William Bramwell, un fameux dans les annales du méthodisme, était un saint homme de Dieu. Sa prédication produisait de nombreux résultats et ses prières de nombreuses réponses. Lorsqu'il priait, c'était plusieurs heures de suite. Il vivait presque sur ses genoux. Ses visites faisaient l'effet d'un feu dans les broussailles, et ce feu avait été allumé par l'esprit d'intercession. Il n'était pas rare qu'il passe au moins 4 heures de suite dans la solitude avec Dieu. Hudson Taylor a pu écrire, donc le missionnaire en Chine, « Depuis 10 ans, le soleil ne s'est pas levé sur la Chine sans que je n'ai prié pour chacun de mes collaborateurs. » Adoniram Judson passait beaucoup de temps avec Dieu. Il écrit « Arrange tes affaires afin de pouvoir consacrer, si possible, 2 ou 3 heures chaque jour, non pas simplement à des exercices spirituels, mais à l'acte même de la prière secrète, de la communion avec Dieu. Sois décidé dans cette cause. Fais tous les sacrifices pratiques nécessaires pour la maintenir. » Peut-être certains diront « Bon, impossible, c'est un enseignement fanatique que tout ça. » Le docteur Adoniram Judson a enrôlé un empire pour Christ. Il a posé des fondements de granit au royaume de Dieu, au cœur même de la Birmanie. Et il fut un des rares serviteurs de Dieu à influencer puissamment le monde pour Christ. Bien des hommes qui étaient mieux doués en génie et en instruction que lui n'ont pas fait une telle impression sur leur génération. Leur œuvre religieuse a été comme des marques de pas dans le sable. Mais lui, il a gravé les siennes dans le roc. Aujourd'hui, la Birmanie compte 6 fois plus de chrétiens nés de nouveau que la France. Le secret de sa profondeur et de son endurance se trouve dans le fait qu'il donnait du temps à son maître. Il conservait le feu dans son cœur, dans les moments de prière. Aucun homme ne peut accomplir une œuvre grande et durable pour Dieu s'il n'est pas un homme de prière. Et personne ne peut être un homme de prière s'il n'y passe beaucoup de temps. Je suis bien conscient que je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit ce soir. Toutes les choses que vous allez entendre, vous les avez déjà entendues. Ce que je voudrais simplement, c'est que toutes ces choses, ces vérités, pénètrent nos cœurs pour qu'elles produisent quelque chose de plus dans notre vie d'intercession. J'aimerais prendre quelques exemples bibliques. Et j'ai relu les épîtres de l'apôtre Paul. Et on peut dire que toutes les épîtres de l'apôtre Paul, dans toutes ces épîtres, il écrit qu'il prie pour ses destinataires. Et il donne des commandements à prier. Le plus connu, peut-être, prier sans cesse, en 1 Thessaloniciens. La vie de l'apôtre Paul, la vie nouvelle de l'apôtre Paul, a commencé par 3 jours de jeûne et de prière. Et puis, on le retrouve au moment de son appel dans l'église d'Antioche, dans le jeûne et la prière. Et puis, on le trouve en prison, cette fois-ci dans un jeûne forcé et dans la prière. Et quand il doit quitter les anciens de l'église d'Éphèse, à genoux dans le sable de la plage, ils sont encore dans la prière. Et toute sa vie n'a été qu'une vie de prière. Pensez, songez à ce temps passé emprisonné. Et c'était un temps passé dans la prière. Aux Romains, il écrit « Je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières. » Aux Éphésiens, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. » Aux Philippiens, ne cessant dans toutes mes prières pour vous. En Colossiens, nous ne cessons de prier pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et puis, au chapitre 4 et au verset 12, Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. En 1 Thessaloniciens, il écrit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Et puis ces beaux versets « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Nous prions continuellement pour vous. Je rends continuellement grâce à Dieu faisant mention de toi dans mes prières, écrira-t-il à Philémon. » Quand on lit cela, ça laisse une impression où l'apôtre Paul était constamment occupé dans ses pensées, dans son âme, dans son cœur, à prier pour les frères et sœurs qu'il avait dans la foi, pour les villes dans lesquelles le témoignage de l'Évangile avait été laissé. L'Église est née à genoux, après 10 jours de prière dans une chambre haute, et elle grandissait à genoux. L'œuvre prenait tellement d'ampleur que les 12 apôtres ne suffisaient plus. Et alors ils ont demandé aux croyants de choisir 7 hommes dont on rende un bon témoignage et qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse pour s'occuper des affaires de l'Église, afin que eux s'appliquent à la prière et au ministère de la parole. Délaisser la prière et l'étude, c'était perdre la puissance dans la prière. C'était perdre la présence du Seigneur. Et c'est le Seigneur, au travers d'eux, qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La puissance du Saint-Esprit agissait en eux tant que eux cherchaient la présence de Dieu dans la prière. Ce que Jésus-Christ priait à présent. Jésus-Christ sortait souvent pour prier, avant comme après avoir prêché. Il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Quand il l'eut renvoyé par de la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Ce soir-là, il a prié une bonne partie de la nuit. Et puis il a rejoint ses disciples qui étaient partis en barque. Il les a rejoints en marchant sur l'eau. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'était juste avant de choisir les 12 disciples. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples. Luc chapitre 9, verset 18. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Dans Gethsémané, il priait toute la nuit. Sur la croix, il priait encore pour ses bourreaux. Jésus-Christ a maintenu constamment la communion avec son Père parce qu'il était intensément dans la prière jour après jour. Si Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas pu agir sans prier, lequel d'entre nous oserait prétendre pouvoir s'en passer? Ce serait une folie. Et moi, lorsqu'on me demande « Mais qu'as-tu fait aujourd'hui ?» Je suis presque gêné de répondre que j'ai prié, alors que ça devrait être ma préoccupation principale. Et quand je réponds « Oh, mais aujourd'hui, j'ai couru la ville parce qu'il fallait que je fasse des visites à un tel, et puis j'ai fait aussi des photocopies pour machin, et puis aussi je suis allé acheter quelques matériaux pour notre bâtiment, et puis personne ne s'étonne du peu de temps consacré à la prière. Le souverain sacrificateur, lui, devait porter sur son cœur, sur ses épaules, le pectoral. Et le pectoral, il est décrit en Exode 28, « Il portera ainsi sur son cœur les noms des fils d'Israël pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. » C'est-à-dire que Dieu a donné le pectoral pour que le souverain sacrificateur n'oublie pas de porter devant Dieu, comme à bout de bras, l'ensemble du peuple d'Israël. Christ a fait de chacun d'entre nous un des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et quand on regarde ce que Christ priait, quand on regarde ce que l'apôtre Paul priait, quand on regarde ce que nos prédécesseurs et l'Église d'autrefois priaient, on peut dire oui, la prière a été délaissée aujourd'hui. Je crois qu'on l'a délaissée et on a perdu quelque chose de grand. Et le diable a réussi à désarmer le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous sommes sans force lorsqu'il nous faut parler du Seigneur, lorsqu'il nous faut évangéliser, lorsqu'il nous faut encourager, lorsqu'il nous faut placer notre confiance. Nous sommes sans force. Du temps du roi Salomon, Israël était dans la richesse. Tout n'était que d'or. Dans la maison de Salomon et dans la maison de l'Éternel, tout était en or. Et puis, son fils est venu, Roboam. Et Roboam ne marchait pas avec Dieu. Et alors, le roi Shishak, roi d'Égypte, est monté contre Israël et a renversé Israël et le royaume du Sud. Et il a dépouillé Israël de tous les boucliers d'or que l'armée de Salomon pouvait avoir, que tous les hommes dans le temple portaient pour les cérémonies dans le temple. Ils ont tout dépouillé. Roboam, parce qu'il fallait continuer les services et les cérémonies dans le temple, Roboam a fait des boucliers en bronze. Parce que le bronze, c'est aussi un peu jaune. Et que le bronze, quand on l'astique vraiment bien, eh bien, ça brille sensiblement comme de l'or. Mais ça n'a pas du tout la même valeur que l'or. Et le diable se débrouille toujours pour nous pousser à contrefaire quelque chose lorsqu'on a perdu la puissance, lorsqu'on a perdu la chose authentique. Il nous pousse à dire, ben écoute, t'as qu'à faire comme ça. Et alors nous aussi, dans la prière, ben, puisqu'on a perdu cette vie de prière, cette foi, cette confiance dans le Seigneur et cette puissance dans la prière, eh bien, on a inventé une nouvelle forme de prière. Et alors, eh bien, on a maintenant le formalisme religieux qui a été substitué à la véritable adoration. Par exemple, on récite des prières dans des églises parce que le cœur est vide. On fait des grandes réunions de prière. Un pasteur m'a raconté que dans sa ville, ils ont fait venir une église un peu, complètement charismatique, a fait venir un grand pasteur, celui qui vient des États-Unis et qui sait chasser les démons. Donc, ils l'ont fait venir et ils ont parcouru la ville avec toute l'église. Et là, ils sont allés, et puis ils ont regardé, et puis lui, il a dit, là, et puis alors, le soir, ils sont tous revenus en voiture, et puis ils sont allés dans les lieux, là, où il y avait plein de démons, et puis alors là, et hop, et ils ont chassé les démons de la ville. Mais les gens ne sont pas venus plus à Christ pour ça. Est-ce ça la vraie prière? Je suis sûr que non. Certains font des prières en langue, soi-disant. Ils comprennent même pas ce qu'ils disent, bougent beaucoup. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont plus la sainteté. Les autres s'agitaient pour chasser les démons parce qu'ils n'avaient plus de puissance. On fait des concerts de louanges. Et on amasse des foules immenses, que parfois on fait payer même, pour offrir un concert de louanges soi-disant à Dieu. Parce que quoi? Et parce qu'on a perdu la véritable adoration, celle qui se fait en esprit et en vérité. On fait des marches. Oh, des marches, les marches pour Jésus. Si vous avez entendu parler de ces marches pour Jésus, vous savez à quel point ça nécessite une organisation. Terrible, parce qu'il faut toutes les autorisations possibles et imaginables de la préfecture pour pouvoir circuler. Il faut des gens et des gardiens tout au long, etc. Et on a maintenant organisé la prière, soi-disant. On a organisé la prière parce que l'on a perdu la ferveur dans la prière. On écrit des livres sur la prière, mais on ne prie plus. C'est-à-dire qu'on a la science, mais qu'on n'a plus la pratique. Et toutes ces imitations sont des manifestations publiques. On cherche à faire entendre que l'on prie. Alors que ce que Dieu dit, Matthieu chapitre 6, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui est là, te le rendra. Verset 17. Quand tu jeûnes, oh, parfume ta tête et fais un beau visage pour pas qu'on dise « Ah, il jeûne, il jeûne !» Et puis, prie ton Père qui est dans le secret et ton Père qui est là, dans le lieu secret, elle te le rendra. Alors, pourquoi est-ce que l'on a délaissé la prière ? Je crois qu'une des choses qui nous décourage le plus dans la vie de prière, c'est parce qu'on n'est pas exaucé, tout simplement. Et c'est ça qui nous décourage. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me décourage, c'est quand je ne suis pas exaucé. Les prières, la promesse du Seigneur est là, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je vous le donne. Et nous, on ne possède pas. Et Jacques écrit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ou vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, tout simplement. Et pourquoi on ne demande pas? Pourquoi est-ce qu'on n'en est pas exaucé? Eh bien, simplement parce que Dieu ne peut pas nous exaucer. En Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2, il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » J'ai eu l'autre jour quelqu'un au téléphone. Et c'est un garçon qui était sur Toulouse avec beaucoup de soucis et il est... Je ne sais pas s'il est venu à Christ ou pas, en tout cas il m'appelle chaque fois que ça ne va plus dans sa vie et qu'il a fait des bêtises et là il demande que je prie pour lui et il prie aussi pour lui-même et il se souvient du Seigneur dans ces moments-là. Il a quitté Toulouse, il est parti habiter à Marseille. Et cette semaine il m'a téléphoné et sur un cellulaire. « Allô, pasteur Bourrel, voilà, je fais des bêtises, oh là là, ça ne va plus... J'aimerais vraiment que vous priez avec moi et tout ça. » Comme on a pris l'habitude de prier par téléphone, j'ai dit, ben, je commence alors. Voilà. On commence à prier avec lui. Et puis ensuite, lui prie. Et moi, alors, je suis à mon bureau avec mon téléphone portable, puis j'entends, « Seigneur, Dieu, ça passait plus. Forfait voyelle, comme dirait quelqu'un. Ça passait plus sur le... Et je pensais, mais... Combien souvent mes propres prières doivent être entendues comme ça par le Seigneur? Pourquoi? Parce qu'il y a du parasite. Il y a du parasite dans notre ligne, dans notre communion avec le Seigneur. L'efficacité de nos prières tient à la sainteté de nos cœurs. Tout péché toléré dans notre vie... Tout interdit, non confessé et abandonné, constitue une barrière entre nous et notre Dieu. Et le Seigneur Jésus dit, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ici, le crime... qui empêche la prière d'être entendue par Dieu et d'être exaucée, c'est de ne pas pardonner. Et je crois que ça, c'est très très important pour nous. Parce que je ne pense pas que vous êtes ceux qui avaient les mains pleines de sang d'avoir commis des crimes ou que vous avez cambriolé une banque juste avant de venir à la convention, non. crois pas que vous êtes ce genre de personne. Mais dans notre vie, nous pouvons tolérer des péchés que j'appelle d'omission. Des péchés d'omission. On a oublié de pardonner. Entre guillemets, oublié. On a oublié d'être gentil. On a oublié de donner sa dîme. On a oublié de venir à l'église. On a oublié d'éduquer nos enfants dans la parole de Dieu. On a oublié de prendre soin et d'honorer notre épouse. Et alors, quand on vient devant Dieu, c'est le forfait voyelle. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Et ça, c'est très grave. Et c'est ce qui mine notre vie de prière, notre vie spirituelle. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut dire qu'il a, il ne s'agit pas d'un mari qui a battu sa femme. Il ne s'agit pas d'un mari qui la méprise ou qui l'humilie. Il s'agit simplement d'un mari qui a oublié d'honorer sa femme, de prendre soin d'elle. Et c'est ça qui fait un obstacle à sa prière. Regardez au verset 12, il est dit, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font du mal. » Avez-vous quelque chose qui vous trouble lorsque vous commencez à prier? John Rice raconte que, et il a écrit un excellent livre sur la prière que je vous encourage à lire, j'ai lu pour préparer ces choses. Il raconte qu'une femme, chaque fois qu'elle voulait prier, c'est comme si elle entendait Dieu lui dire « Et c'est 800 dollars ». À chaque fois qu'elle voulait prier, et c'est 800 dollars. C'était une zèle. Perdu son mari, dans l'affliction, elle ne savait pas comment elle allait s'en sortir. Et finalement, elle a fait une entourloupe aux assurances. Elle a mis le feu à sa maison et elle a touché 800 dollars. Et Dieu lui dit, hey, « Hé, c'est 800 dollars !» Et toute sa vie de chrétienne, elle a entendu ça, chaque fois qu'elle voulait se mettre sur ses genoux, « Et c'est 800 dollars !» Et vous savez, quand on vient dans la prière, c'est là, dans la prière, en face à face avec notre Dieu, que toutes ces choses reviennent. Et je vous mets au défi, comme ça, de vous présenter devant Dieu, de vous placer sincèrement devant Lui, et de commencer à essayer de prier. Et je peux vous dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, cette chose-là apparaîtra. Et alors là, faites exactement ce que le Seigneur a dit. Laissez là votre prière. Ce n'est pas la peine d'essayer de téléphoner à quelqu'un qui ne vous entendra pas. Allez d'abord vous réconcilier. Allez arranger cette affaire-là. Et ensuite revenez devant votre Dieu pour trouver la paix et l'exaucement à votre prière. Dieu, le Dieu qui exauce les prières, est un Dieu saint et il veut qu'on le prie avec sainteté de cœur. Et c'est dans le sanctuaire secret de la prière, eh bien, que l'on peut redresser nos torts, confesser nos péchés. C'est pas à table ou quand il y a toute la famille. On va se donner la main et puis on va dire « Seigneur, j'ai menti aujourd'hui » et vous allez dire ça à vos enfants. C'est pas dans la réunion de prière de l'église. Vous allez commencer à déballer vos affaires. Non. C'est dans le lieu secret, dans le sanctuaire, là, dans le lieu secret devant votre Père que vous allez régler ces affaires-là et que vous allez prendre la force, le courage d'aller voir tel ou tel frère pour lui demander pardon, d'aller voir telle personne pour lui rendre une chose que vous avez gardée ou je ne sais quoi. La deuxième chose pour laquelle on ne prie plus ou qu'on a délaissé la prière, c'est parce que on ne croit plus à son efficacité. J'aimerais vous inviter à prendre Luc chapitre 18. Vous vous souvenez de, dans les versets 1 à 8, on lit cette histoire de cette pauvre veuve. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Et pendant longtemps, il lui refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette femme, cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête ». Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et moi, je crois que la foi dont il parle ici, c'est la foi dans ce Dieu qui exauce la prière. Et nous ne prions plus parce que nous n'avons plus cette confiance dans ce Dieu qui exauce la prière, qui veut nous faire justice. Chaque fois que l'un de ses enfants crie vers lui, il n'est pas un plus mauvais père que moi. Il dit, non, tu es un mauvais père, moi je suis un bon père. Alors je te ferai justice. Alors une fois qu'on a réglé cette vie de péché, et les péchés d'omission, les choses secrètes qu'on tient là et qui minent et qui empêchent notre vie de prière d'avancer, maintenant, il nous faut venir devant lui avec cette confiance qu'il va nous faire justice. Cette foi, ce qui donne à cette veuve l'énergie et la persévérance, c'est qu'il y va de tous ses droits et de ses intérêts les plus chers. Ce qui doit nous stimuler et nous pousser à prier sans relâche, c'est qu'il y va des intérêts de Dieu lui-même de nous exaucer. Il y va de nos propres intérêts. Il y va des intérêts de l'humanité, de tous ceux qui nous entourent. Et puis, nous n'avons pas affaire à un juge inique, mais au Dieu plein d'amour qui ne demande qu'à nous accorder nos requêtes. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Il leur fera promptement justice. La troisième chose pour laquelle nous ne prions plus, ou si peu, c'est parce que l'on n'a plus besoin de prier. Je m'explique. En prenant la lettre de l'Église à Laodicée, en Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 20. Nous ne prions plus parce que nous n'avons plus besoin de prier. L'Église de Laodicée, c'est l'Église de la fin des temps. C'est la dernière Église avant le retour du Seigneur. C'est notre Église. Cette Église de Laodicée, le Seigneur lui dit, verset 15, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Les habitants de Laodicée, c'était des hommes riches. C'était vraiment une ville riche, Laodicée. Il y avait beaucoup de médecins ophtalmos. Alors, dans cette ville de Laodicée, si vous aviez des problèmes de vue, alors là, vous étiez vraiment bien tombé, parce que c'était la ville où il y avait tous les ophtalmos. Et nous, c'est pareil. Notre église. Mais chaque fois qu'il y a le moindre souci, le moindre problème, on a les meilleurs gens, les meilleurs spécialistes, les meilleurs livres. Alors, on n'a pas besoin de prier.
Dieu dit, je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux parce que tu vois rien. Tu es aveugle, tu dis je vois, et puis tu vois rien. Et puis, c'était dans cette ville-là où il y avait aussi beaucoup de commerce. Ils étaient spécialistes dans la teinturerie. C'est la teinture de plein de tissus. Et Dieu dit, je te conseille, toi qui as les plus beaux vêtements, je te conseille d'acheter ou d'être vêtu afin qu'on ne voit pas ta nudité. Oh, tu te crois quelque chose, mais moi je te conseille d'avoir un vêtement blanc, un vêtement sans tache, un vêtement pur. Et puis cette ville était tellement riche que lorsqu'ils ont connu un séisme, toute la ville a été détruite. Et c'était la ruine pour toute la ville. Et l'Empire romain a offert de reconstruire la ville. Ils se sont dit, non, c'est bon, merci, c'est bon, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de vous, on a ce qu'il faut, on a l'argent. On va reconstruire ça, ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de vous, non, vous occupez pas de nos affaires. Et c'est exactement la même situation dans notre église d'aujourd'hui. On est une église qui n'a pas besoin. On n'a pas de besoin. Lequel d'entre vous a prié, Seigneur, je te prie qu'en allant à Feur, tu gardes ma vie. J'ai peur de la milice. J'ai peur d'être arrêté. Je te prie pour mes enfants, ma famille que je laisse. Lequel d'entre vous qui a dit, Seigneur, ce soir, je te loue pour le repas que tu m'as donné. Je sais que c'est toi qui pourvois à mes besoins. J'avais faim et tu m'as donné aujourd'hui ce que j'avais besoin. Parfois même, quand on prie pour rendre grâce pour un repas, on oublie même de dire merci pour le repas. Pas vrai? Parce qu'on n'a pas besoin. Lequel d'entre nous prie parce qu'il est dans une maladie terrible et qu'il sait qu'il n'y a pas de médecin aux alentours pour pouvoir trouver secours pour sa vie? Non. La première des choses, quand on a le moindre bobo, il faut voir le médecin. Moi, je suis bien placé, en plus. Je ne tombe pas sur mes genoux en disant, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, soulage-moi. Seigneur, guéris-moi, porte-moi. Mais lorsqu'on est malade, et qu'on doit dire, Seigneur, je sais que si c'est ta volonté que j'aille à faire, tu me donneras alors la force pour y aller. C'est différent. C'est tout à fait différent. Et nous n'avons pas besoin de prier parce que nous croyons riches. Je n'ai besoin. C'est la confession qui est dit ici. Je n'ai besoin de rien. C'est pour ça qu'elle ne le prie plus. Et regardez bien, Christ n'y est même plus. Mais parce qu'on l'a... Merci, on n'a plus besoin de toi. On a tout ce qu'il nous faut. Et c'est le drame de l'église de Laodicée. Je crois que c'est aussi le drame de notre propre vie. Quelle différence avec ces chrétiens du désert qui étaient obligés de remettre toute leur vie entre les mains du Seigneur. Je pense à cette école, j'en ai parlé tout à l'heure à table, l'école de la mort. Cette école qui était fondée à Genève, à Lausanne, je crois, et qui était là pour pallier à la perte de tous les ouvriers, de tous les serviteurs de Dieu qui étaient arrêtés et qui avaient été tués en France pendant la période du désert. Et cette école formait de nouveaux pasteurs, de jeunes pasteurs. Ils mettaient 3 ans à être formés et l'idée de ce qu'ils vont faire. Et puis ensuite, que tout péché d'omission, parce que là encore il parle d'oublier, d'avoir pardonné, d'omettre de pardonner, pas d'oublier, doit être confessé et abandonné. Et puis regardez ce qu'il dit ensuite. Il n'y a pas d'amen là. Il continue son enseignement. Il dit verset 5, il leur dit encore, si l'un d'entre vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains.
je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité, comme la veuve, et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Nous avons ici l'histoire d'un homme qui a deux amis. Et nous aussi, nous avons tous deux amis. L'un de ces amis, c'est Dieu lui-même, celui qui dispose de toute la plénitude de ses richesses en faveur des pécheurs. Le second, c'est le pécheur lui-même, dans l'indigence. Tout enfant de Dieu doit être dans ce monde un médiateur entre le Seigneur et l'humanité perdue. C'est nous que le Seigneur a choisi pour être le canal pour faire parvenir le pain de vie aux pécheurs. En présence de la multitude affamée, Jésus dit à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais c'est lui qui a fourni le pain. C'est lui qui a fourni le pain parce que ils étaient comme cet homme de la parabole, ils n'avaient rien à donner. Oh, en cherchant bien, ils ont trouvé un jeune homme, un jeune garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais ils ont dit, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et nous aussi, on doit avoir cette attitude-là quand on prie. Seigneur, j'ai 2 pains, j'ai préparé des choses. J'ai lu ma Bible ce matin et j'ai prié, mais je me rends compte, Seigneur, c'est 2 pains. Et qu'est-ce que ça ne suffira jamais pour tous ces gens. Et c'est une prière de confession d'abord, vous avez remarqué. Il vient frapper chez son ami et lui dit, j'ai un ami là, qui est venu chez moi, et je n'ai rien à lui offrir, rien. Donne-moi 3 pains. Donne-moi quelque chose. Donne-moi quelques pains pour cet ami. Je me suis retrouvé dans cette situation cette semaine. C'était la fin de l'année scolaire et les enfants voulaient faire un cadeau à leur maîtresse. Alors Anne-Sophie a emballé des bibles et une cassette du film Jésus avec un petit mot dans tout ça. Et puis les enfants ont porté ça à leur maîtresse. Et c'était tout content. Les maîtresses étaient contentes aussi. Elles ont déballé ça. Quand je suis allé chercher Marion à la sortie de l'école, la maîtresse m'a attrapé. Puis elle m'a dit, oh, merci beaucoup pour votre cadeau, pour la Bible. Ça me fait très plaisir. Je vais la lire pour cet été. Je vais la lire pendant les vacances. Je suis pasteur. Et je me suis retrouvé là, devant l'institutrice de ma fille. Et je n'ai pas été capable de rebondir sur cette perche qui m'était tendue. J'ai pas été capable. J'étais à la fois surpris, à la fois. Et quand je suis reparti de la classe, j'ai dit, Seigneur, je n'ai rien à offrir. On me tend une perche comme ça, et j'ai rien à offrir. Je suis sec. J'ai rien pu lire. J'ai juste dit, ben oui, oui, lisez-la. Pitoyable, le pasteur. Vous savez, on a besoin d'une nourriture, mais qui dépasse largement nos capacités. Et il faut qu'on puisse venir devant le Seigneur en lui disant, Seigneur, je n'ai rien à offrir et j'ai une multitude qui est d'affamés autour de moi. Et si toi, tu ne me multiplies pas tous mes pains, si tu me visites pas maintenant, alors je vais être sec. Et les gens resteront dans leur ignorance à ton sujet. Et on a besoin de confesser cela. Je n'ai rien à leur offrir. Et puis vous avez remarqué, il est venu à minuit. Il est venu au milieu de la nuit frapper chez son ami. Lequel d'entre nous va frapper à la porte du Seigneur à minuit? Bon, c'est pas respectable ça. Seigneur ne sommeille ni ne dort. On peut venir à toute heure du jour et de la nuit. Mais seulement minuit, ce n'est pas notre heure. Nous, on préfère le matin ou le soir. Le matin, pas trop tôt, et le soir, pas trop tard. Bien comme il faut, que ça ne nous dérange pas. Mais si nous voulons prier, ça va nous bouleverser, ça va changer nos vies. Il faut adapter. Adoniram Judson dit, mais sacrifie ta journée pour pouvoir prier 2 ou 3 heures par jour, sinon tu n'auras rien fait. Lequel d'entre nous est prêt à dire, c'est bon, je ne mange pas aujourd'hui parce que je n'ai pas prié. Lequel d'entre nous est prêt à dire, je laisse tomber toutes ces affaires, le ménage, pour venir devant le Seigneur et prier. Si la prière n'est pas quelque chose de plus important que celle-là, nous ne prierons jamais comme Dieu veut que l'on prie. Mais si on se rend compte que l'on est dépouillé de tout, et que vraiment la seule chose, notre seul secours, c'est de venir devant Dieu, alors oui, à toute heure du jour et de la nuit, on pourra venir se présenter devant Dieu et plaider, et frapper à cette porte qui nous sera ouverte, et demander, et il nous sera donné. Cherchez, l'on trouvera. Il nous faut avoir cette attitude de venir devant notre ami. Enfin, la troisième chose que le Seigneur donne ici, en Luc chapitre 11 toujours, verset 11. « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? » Ici, le Seigneur parle maintenant de l'objet de la demande. Il dit, il prend l'exemple, vous avez besoin de pain parce que c'est ce que vous venez demander au Seigneur, donne-moi du pain. Le Seigneur dit, lequel d'entre vous, si son fils lui demande du pain, va-t-il lui donner une pierre, un scorpion ? Aucun d'entre nous. Et lui, il dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Et maintenant, pour moi, c'est quelque chose que je crois être fondamental maintenant. C'est demander le Saint-Esprit, c'est-à-dire avoir recours au Saint-Esprit. C'est avoir recours au paraclète, c'est-à-dire celui qui se tient à mes côtés pour intercéder. C'est avoir recours à l'esprit d'intercession. Quand nous prions pour obtenir le pain destiné aux pécheurs, ça revient à demander la puissance du Saint-Esprit et la sagesse pour accomplir ce dont nous serions incapables sans son secours. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour devenir des gagneurs d'âme, des ouvriers qui portent du fruit. Qu'est-ce qui m'a manqué devant la maîtresse d'école ? Simplement la puissance du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans ma vie, abondamment. La manifestation du Saint-Esprit dans ma vie. Maintenant, je vous rassure. C'est un fait indéniable que tout chrétien possède le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est simple. Mais ce n'est pas de sa demeure dont il s'agit ici. Il ne s'agit pas de demander que le Saint-Esprit vienne habiter dans votre cœur. Depuis Pentecôte, chaque fois qu'un homme, qu'une femme se tourne vers Christ pour le recevoir comme son sauveur personnel, il reçoit le Saint-Esprit dans sa vie, dans son cœur. Donc, qu'est-ce qu'il demande ici ? Il demande, justement, la puissance du Saint-Esprit, l'effet du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie. En grec, quand il y a un article devant le mot Saint-Esprit, eh bien, il s'agit de la personne du Saint-Esprit. Mais quand l'article ne figure pas, il s'agit simplement de l'effet du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Par exemple, lorsque Jésus, après la résurrection et avant la Pentecôte, a soufflé sur ses disciples et il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ici, il n'y a pas d'article. Parce que le Seigneur savait qu'il allait envoyer le Saint-Esprit à Pentecôte, 50 jours plus tard, après la résurrection. Il a simplement dit « Recevez la manifestation », c'est-à-dire l'effet du Saint-Esprit qui va pouvoir vous garder jusqu'à la Pentecôte, alors qu'à ce moment-là, il viendra et fera sa demeure en vous. Et qu'est-ce que nous avons besoin, nous, aujourd'hui ? Mais c'est que l'effet du Saint-Esprit soit manifesté au travers de nous, et qu'il puisse toucher et atteindre les cœurs, qu'il puisse multiplier nos pains et nos poissons pour que la multitude soit rassasiée. Nous avons besoin d'avoir recours à l'Esprit de Christ qui connaît notre faiblesse et qui sait comment intercéder parce qu'il connaît la volonté du Père. Romains chapitre 8, verset 26. Et c'est cela dont nous avons besoin. Et ça m'a beaucoup encouragé de savoir que à nos côtés, il y a le Saint-Esprit. Et qu'on peut demander au Seigneur que le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Et éclaire, dévoile, le Saint-Esprit va dévoiler ce qui n'est pas saint dans notre vie. Et puis il va nous montrer comment prier. Il va nous montrer nos besoins. Et puis il va nous secourir dans la prière. Et combien ça m'encourage de savoir que, eh bien, je peux compter davantage sur lui. Et puis, je peux demander cette chose-là, d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir parler à la maîtresse de ma fille la prochaine fois que je la verrai. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce n'est pas plus de techniques, de meilleurs outils, plus de nouvelles organisations ou de nouvelles méthodes, mais simplement d'hommes dont le Saint-Esprit puisse se servir. Des hommes de prière, puissants dans la prière. L'évangile de Luc a été écrit après Pentecôte. Pourquoi le Seigneur nous donnerait-il une promesse comme celle-ci, s'il s'agissait de la prière, si c'était déjà une chose que nous avions reçue? Et puis, l'apôtre Paul, dans ses prières pour les Éphésiens, il leur dit « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que Dieu... que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Ils ne prient pas pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils l'ont déjà, mais que le Saint-Esprit les éclaire. Et puis il dit, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. » Voilà encore une prière pour que l'esprit agisse dans l'homme intérieur. « Or, à celui qui peut faire par la puissance du Saint-Esprit, qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Il est clair, ici, que l'on peut prier sans le Saint-Esprit. On doit prier Christ, Dieu le Père, par le Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ. Alors, où en sommes-nous dans notre vie de prière? Et je ne veux pas parler de la réunion de prière de l'Église. On peut facilement savoir où on en est, on compte les personnes, on sait combien de temps que ça dure, on connaît les exaucements. Mais je parle de la vie personnelle, de la rencontre dans le lieu caché. C'est ça la puissance de l'Église, la botte secrète de l'Église, celle qui va nous permettre de frapper, d'atteindre notre pays, d'atteindre nos contemporains, d'atteindre nos frères et sœurs dans leurs besoins, pour leur porter secours. Où en sommes-nous dans toutes ces choses-là? Reconnaissons ce qui ne va pas, confessons-le devant le Seigneur, et puis venons devant notre ami, celui qui est fidèle, celui qui est riche, celui qui peut donner. Venons et reconnaissons que nous n'avons rien. Et puis, réclamons le secours d'en haut, le secours du Saint-Esprit, pour pouvoir intercéder convenablement pour la gloire de Dieu. Amen. On va s'incliner dans la prière, vous voulez bien. Notre Dieu et Père, nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés, Seigneur, orphelins. Tu nous as laissé ton Saint-Esprit. Il peut nous diriger, Seigneur, dans notre vie personnelle avec toi. Il peut reprendre tous les enseignements, Seigneur, de toi, et les déposer au fond de nos cœurs pour que nous les comprenions. Seigneur, un jour tes disciples sont venus devant toi et t'ont demandé « Enseigne-nous à prier ». Seigneur, béni sois-tu parce que toutes tes paroles nous ont été rapportées. Seigneur, permets que chacune d'elles et les paraboles que tu nous as citées prennent vie dans nos cœurs. Que nous soyons de ceux qui confessions qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui mettent un obstacle. Mais que tu es un Dieu puissant pour renverser encore tous ces obstacles, pour nous pardonner et pour nous relever. Tu es un Dieu qui est riche, qui peut agir au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, tu es un Dieu et qui nous a toujours secourus. Tu as toujours manifesté à notre égard, Seigneur, ta bonté. Seigneur, nous croyons qu'encore tu veux nous encourager à vivre pour toi, à visiter, Seigneur, les lieux célestes dans la prière, à mieux te connaître, Seigneur, et à intercéder en faveur de notre pays. Seigneur, donne à ce pays, Seigneur, des hommes et des femmes qui intercèdent, dans la clandestinité, dans le secret, mais bien connus, bel et bien connus de toi. Seigneur, préserve-nous de tomber dans les travers de l'église de la Odyssée. Veille sur nos propres vies, Seigneur, parce que nous sommes si promptes à nous égarer, Seigneur. Et nous te demandons pour que, pendant cette convention, Seigneur, chaque message de mes frères, chaque moment de communion, Seigneur, porte du fruit, Seigneur, dans chacune de nos vies. Que, Seigneur, les choses qui ont été perdues, les choses qui ont été délaissées, elles soient remises à jour, Seigneur, dans notre vie. Que nous repartions vraiment encouragés. Seigneur, sois loué et béni pour cela. Par Jésus-Christ. Amen.